autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour plonger au cœur du plus puissant accélérateur de particules au monde, le LHC au CERN à Genève, où après la découverte du boson de Higgs se poursuit l'une des plus grandes expériences scientifiques de tous les temps. Excusez les superlatifs, mais ils sont de mise pour cette quête de l'infiniment petit qui est aussi celle de nos origines, la traque des briques les plus élémentaires de la matière, jusqu'où nous entraînera cette aventure scientifique, humaine et technique. C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités, la physicienne des particules Nathalie Besson, qui mène ses recherches au sein de la collaboration Atlas du LHC, et Julien Babel, médiateur de l'exposition Le Grand Collisionneur LHC, exposition immersive, s'il vous plaît, actuellement au Palais de la Découverte à Paris, où est reconstitué cet incroyable accélérateur. Autour de la question jusqu'où nous entraînera le Grand Collisionneur de particules, bienvenue. Bonjour Nathalie Besson.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour nous faire partager un peu de cette aventure scientifique et humaine enthousiasmante et assez insensée que vous vivez au quotidien. Vous êtes chercheuse en physique des particules au CEA de Saclay. Vous faites partie de ces conquérants du minuscule qui ont traqué et découvert le fameux boson de Higgs, car vous exploitez les données du détecteur Atlas, installé autour d'un des points de collision du LHC. Ce gigantesque accélérateur de particules n'est pas seulement une machine à découvrir, c'est aussi d'abord un formidable instrument de mesure. Pour mesurer quoi ? Les briques les plus élémentaires de la matière, ces fameux bosons que vous étudiez ?
Exactement. Moi, j'ai un petit favori, c'est le boson Z.
Le boson
J'aime
Z.
J'aime bien aussi son camarade, les bosons W+ et W-, qui existent en deux états de charge. C'est pour ça qu'ils sont un peu jumeaux.
Vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces bosons Z, Z ou W ?
Alors, dans la physique des particules, donc vous l'avez dit, c'est les constituants les plus élémentaires de la matière. Il y a les particules qu'on appelle de matière, c'est-à-dire celles qui nous constituent, donc l'électron, dont je pense que tous nos auditeurs ont plus ou moins, à un moment donné, entendu parler. Mais il y en a d'autres qu'on appelle avec un nom rigolo, c'est les quarks.
Ouais, les quarks.
Puis il y a aussi des muons, qui sont des particules comme un électron plus lourd, un tauon, et puis trois très légères qu'on appelle les neutrinos. Donc on a six quarks, trois chargées légères, électrons, muons, tauons, et puis trois neutrinos très légères et neutres.
Dans l'infiniment, infiniment petit.
Ouh là là.
Bah, mais qui nous constitue ?
Celles qui nous constituent essentiellement, c'est deux des quarks qu'on appelle up et down, donc on note comme un petit u et petit d, et puis des électrons. Les quarks up et down constituent protons et neutrons, qui constituent les noyaux des atomes autour desquels gravitent les électrons. Et tout ça forme les atomes, qui se lient entre eux pour former des molécules, qui se lient entre eux pour blablabla, on arrive au vivant, nous. Donc oui, ça c'est la matière. Maintenant, quand j'ai dit ça, j'ai décrit le contenu de l'univers, mais j'ai pas décrit comment il marchait, comment il fonctionnait. Et donc pour ça, on a besoin aussi de connaître la manière dont ces particules interagissent entre elles. Et pour la mécanique quantique, pour les physiciens des particules, ces particules interagissent entre elles en échangeant un autre type de particule, qui a un nom rigolo, boson. Alors rendons hommage à Monsieur Bose, qui était un très très grand physicien, qui a donné son nom au boson. Et ces particules-là sont donc les particules qui sont caractéristiques des interactions entre les particules de matière.
Et voilà ces fameux bosons, dont le fameux boson de Higgs, quoi, la plus petite particule. Non, je peux pas dire ça comme ça.
Non, pas comme ça. Alors, elles sont toutes, celles-ci, pour l'instant, d'après nous, élémentaires. Et donc, pour nous, on parle pas vraiment d'extension dans l'espace. On peut pas dire petite ou grande. Elles sont même ponctuelles. Elles sont caractérisées par une masse, une charge et tout un tas d'autres choses qu'on appelle des nombres quantiques. Est-ce qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre ? Il y en a des plus massifs que d'autres, mais plus petits, c'est assez difficile à dire. Et puis alors, tout de suite, je voudrais rectifier. Les bosons dont je parlais qui servent de caractéristiques, enfin qui servent de messagers d'échange pour les interactions, le boson de Higgs est encore différent de ceux-là.
On n'a pas fini, on n'a que commencé cette émission autour de la question.
Il a un statut un peu particulier. Voilà.
Jusqu'où va nous entraîner donc ce collisionneur de particules. Je voudrais quand même dire bonjour à Julien Babel, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médiateur scientifique au Palais de la Découverte, docteur en physique des particules. Vous avez vous aussi travaillé au LHC, mais avant son démarrage. Et vous avez collaboré donc à l'adaptation de cette étonnante exposition immersive qui se donne actuellement à Paris, au Palais de la Découverte, LHC, le grand collisionneur, où les visiteurs peuvent véritablement s'immerger à la fois dans le tunnel du CERN, au cœur même de cet accélérateur gigantesque, pour découvrir et comprendre ce qui s'y fait, mais aussi vivre en quelque sorte dans l'intimité de tous ces chercheurs. Qu'est-ce qui surprend le plus les visiteurs ?
Alors quand les visiteurs visitent cette exposition, ils sont surtout marqués par les chiffres en fait qui sont mis en jeu dans cette énorme machine, dans les températures extrêmes qui règnent dans les tubes d'accélération, les champs magnétiques utilisés. Donc ça, c'est vraiment ce qui les frappe le plus, c'est l'aspect gigantesque ces machines nécessaires à ces études de physique fondamentale.
Oui. À observer l'infiniment petit, on reviendra sur ces paradoxes. Hein. Autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur de particules, avant d'aborder toutes les plus grandes interrogations existentielles sur l'origine de l'univers et de la matière qui le et nous compose. On commence par quelques pistes de réflexion en immersion sonore avec le mix de Charles Pellabon.
Je pense que c'est clair. Je pense qu'on peut maintenant dire qu'on l'a trouvé. Vous êtes d'accord?
Elle est petite, elle est blonde, elle est brune, elle est comment?
Ils l'ont trouvé ce 4 juillet 2012, après presque 50 ans de traque, le CERN annonce avoir découvert le boson de Higgs.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi?
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
C'est quoi le boson de Higgs?
Une particule très énigmatique, très mystérieuse.
Elle serait à l'origine de la masse des autres particules.
C'est croquant au milieu.
Des noyaux.
Non, pas mauvais.
Pour moi, le boson de Higgs, c'est la structure fine de l'espace-temps, c'est sa structure légèrement discrète.
C'est simplement fantastique et uniquement possible ici, au CERN.
Pour débusquer le boson de Higgs, l'organisation a réalisé ce qu'on appelle la plus grande expérience scientifique de tous les temps.
Logé dans un tunnel de 27 km, le Large Hadron Collider.
On parle de 15 mètres de diamètre, 22,5 mètres de long et 14 000 tonnes.
Cette machine est le plus puissant accélérateur de particules du monde.
Qui permet de recréer pendant un temps très court et dans un tout petit volume les conditions physiques de l'univers primordial.
Alors il y a le bazar pour tourner, le truc pour accélérer, le bidule pour freiner.
Cette envie de comprendre de quoi le monde est fait qui intéresse toutes ces personnes.
Les conquérants du minuscule.
Plusieurs milliers de scientifiques venus du monde entier.
Différentes nationalités, différentes cultures. C'est donc très utile dans leurs discussions.
Ils testaient les derniers secteurs de l'accélérateur avec les courants maximum. Au début, il y avait tellement de voyants rouges que l'on pensait qu'il y avait un problème avec les logiciels.
Je trouve ça intéressant d'essayer d'ouvrir le capot de toutes les forces de l'univers, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour de vrai.
Je ne sais pas si j'aurais fait le pari que des humains soient capables de mettre au point un truc pareil.
C'est ça la science. Et à chaque fois, il y a le bonheur de comprendre un peu mieux le monde où je suis.
Nathalie Besson, vous reprenez à votre compte ces mots d'Albert Jacquard, scientifique, généticien, aujourd'hui disparu. C'est effectivement le fait de le bonheur d'essayer de comprendre de quoi le monde est fait qui vous anime.
Alors, en fait, je suis ravie que vous ayez choisi ces paroles d'Albert Jacquard, parce qu'en plus, il y a un autre de mes héros qui les a dites aussi, c'est Richard Feynman, le bonheur de comprendre. C'est exactement ça qui nous anime. C'est juste comprendre l'univers. Enfin, juste, moi j'adore dire ça. Nous, on veut comprendre l'univers, en toute modestie, en toute simplicité.
C'est ça qui
c'est
vous
un
anime
grand programme.
Au CERN, donc, c'est quand même un endroit absolument étonnant. Donc, à Genève, où se trouve ce LHC, ce grand accélérateur de particules. Le CERN qui fête ses 60 ans cette année. C'est un lieu incroyable. C'est là aussi où s'est inventé le web entre physiciens, animé par l'envie de découvrir. Alors, on va parler de la matière et de l'infiniment petit, mais de comprendre le monde qui nous entoure.
Exactement, c'est un lieu absolument magique. Alors moi, j'ai de la chance parce que depuis ma thèse, toutes les expériences auxquelles j'ai participé ont été faites, se faisaient au CERN. Et du coup, j'ai toujours baigné dans ce milieu et je considère que c'est une chance infinie de pouvoir travailler dans cet endroit génial. J'ai essayé de faire le compte. Alors, j'ai trouvé que les chiffres de 2012, mais ils doivent pas être très différents. Il y a 88 pays qui sont représentés sur les 197 qui existent sur la planète.
Donc, un pays sur deux, enfin, il y a des chercheurs d'un pays sur deux dans le monde qui travaillent ensemble.
Il y a des chercheurs d'un pays sur deux dans le monde qui viennent à un moment donné au CERN, qui communiquent, qui travaillent ensemble, qui communiquent avec leur anglais. On a tous un accent épouvantable, on s'en fiche complètement du monde qu'on se comprend, qui avancent dans la même direction, qui cherchent ensemble, qui mettent en commun leur capacité à découvrir et en même temps leurs différences, parce que c'est ça qui fait la richesse d'un travail ensemble.
Il y a même un mot qui a été inventé, alors c'est entre coopération et compétition, c'est quoi ce mot
J'arrive jamais à le retrouver.
Coopétition.
Coopétition, ça doit être ça. C'est Michel Spiro qui l'a inventé, c'est très joli. En fait, il parlait surtout d'Atlas, quand on a deux manips qui sont là pour chercher les mêmes choses.
Alors, il y a Atlas
et CMS,
qui
est diamétralement opposé sur l'anneau du LHC.
C'est-à-dire, en fait, ce sont quoi deux détecteurs qui arrivent à détecter et mesurer le mouvement des particules dans l'accélérateur de particules.
Alors le mouvement, c'est beaucoup dire. En fait,
c'est surtout l'infiniment petit. Hein.
C'est surtout l'accélérateur là qui gère le mouvement des protons. Et quand les protons collisionnent, il y a de l'énergie qui est créée au cours de une grande densité d'énergie qui est créée au cours de cette collision. Et de cette grande densité d'énergie sont créées des particules différentes des protons. Alors quand on a de la chance, une fois tous les ce qui va bien, un boson de Higgs, mais aussi des bosons Z, des bosons W et tout un tas d'autres choses que les détecteurs qui sont placés autour, qui entourent le plus hermétiquement possible les points de collision, regardent donc les particules créées ou leurs produits de désintégration. Et donc il y a deux grands détecteurs généralistes parce qu'ils ont tout un tas de buts de physique accessibles qui sont ATLAS et CMS. Et on donne aux collaborations de physiciens qui exploitent, qui construisent, qui chouchoutent et qui exploitent les données sorties de ces détecteurs, le nom aussi d'ATLAS et CMS. Donc c'est à la fois le nom du détecteur, de l'expérience et de la collaboration.
Et c'est une vraie collaboration. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir autant d'appareils gigantesques, on va y revenir, pour arriver à travailler sur l'infiniment petit?
Alors, au moins deux, c'est super important. Parce que comme on cherche on fait aussi de la recherche de particules nouvelles et on cherche des choses qui n'ont encore jamais été vues, c'est extrêmement important d'avoir la même chose découverte, surtout des choses très rares, très difficiles à mettre en évidence, la même chose découverte par deux détecteurs différents, avec des techniques différentes, avec des physiciens différents qui travaillent dessus. Ça ne fait que renforcer notre certitude dans ce qu'on a découvert.
Parce qu'en fait, c'est tellement invisible et tellement qu'il faut vraiment avoir au moins deux détecteurs et des centaines, voire des milliers de physiciens qui travaillent là-dessus pour en être sûr.
Alors ouais, là, le gigantisme, on a vraiment atteint des sommets avec ATLAS et CMS, mais c'est parce que, en fait, plus on veut voir à haute énergie, et donc, ce qui correspond en physique des particules, à plus on veut voir petit,
plus il faut être grand.
Mais oui. Et j'ai réalisé ça l'autre jour. Si je veux vous voir, vous êtes de l'ordre du mètre. Vous faites plus qu'un mètre. Je rassure nos auditeurs, êtes de l'ordre du mètre. Et avec mes yeux, de l'ordre du centimètre, je vous vois. Si je veux voir une poussière, je vais avoir besoin d'une loupe. C'est déjà un instrument plus grand que l'œil. Si je veux voir encore plus petit, je vais avoir besoin d'un microscope. Et là, ça fait 50 centimètres pour un microscope de labo ou 2 mètres pour un microscope électronique. Et donc, si je veux voir l'infiniment petit, comme on l'appelle, j'ai besoin de détecteurs gigantissimes comme ATLAS et CMS.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur, on écoute le Higgs boson blues de Nick Cave sur RFI.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you.
RFI, Higgs boson blues autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur de particules. Notre reporter Simon Rosé est allé voir sur place, justement au cœur même du LHC, au CERN à Genève, extrait de son grand reportage Les conquérants du minuscule, à l'occasion des 60 ans du CERN, diffusé sur RFI en décembre dernier. Alors nous retrouvons Simon Rosé dans l'ascenseur qui le mène sous terre jusqu'au détecteur CMS, l'un des deux détecteurs, donc avec ATLAS, le vôtre, Nathalie Besson, qui mesure donc ce qui se passe au moment de la collision des particules à presque 30 000 km par seconde. C'est le chercheur Alexandre Zabi de la collaboration CMS qui nous y guide.
Là, on va descendre donc à peu près, si je ne me trompe pas, 93 mètres. Okay. Donc, voilà, là on est arrivé à peu près au moins 2, et le moins 2, c'est le niveau de la ligne de faisceau, d'accord ? C'est l'endroit où, au niveau de là où on collisionne les données.
Voilà, donc là on est dans la caméra expérimentale.
Ah, c'est super.
Vous avez l'occasion souvent de descendre
oui,
aussi ?
Oui, j'ai souvent l'occasion de descendre, et ça c'est phénoménal, mais on est toujours... Ce qui est incroyable, c'est qu'on a beau faire partie de la collaboration. Moi, j'ai vu CMS en 2004, donc l'expérience était en train d'être assemblée en surface à l'époque. Et c'est impressionnant de voir ce détecteur même chaque jour, parce que à chaque fois, on est impressionné. Quoi. On se retrouve devant et on se dit, c'est toujours pareil. On se demande comment un truc aussi compliqué peut marcher, et ça marche vraiment très très bien. C'est ça qui est. Donc le C de CMS signifie compact. Donc si vous pouvez le croire, ce truc-là, c'est compact. On parle de 15 mètres de diamètre, 22,5 mètres de long et 14 000 tonnes. D'accord. Donc ça reste compact parce qu'on veut qu'aucune particule ne sorte non détectée. C'est pour ça que cette physique expérimentale est si compliquée, c'est que vous avez ces géants détecteurs et que chaque centimètre carré de détecteur doit être instrumenté et doit surtout fonctionner. La prouesse technique, elle est là. C'est vraiment d'obtenir des précisions de ce type-là sur des échelles aussi grandes, c'est juste impressionnant.
Impressionnant, évidemment. Techniquement, je suis trompée d'ailleurs. La collision des particules, c'est à presque 300 000 km par seconde. J'y arrive même pas tellement c'est accéléré. Donc impressionnant techniquement. Mais pas seulement, Julien Babel, parce que ces machines, elles ont été construites par le cerveau des hommes, des humains.
Oui, exactement. Ouais. Et c'est même des défis pour l'intelligence humaine, puisque ça, c'est toute la technologie du LHC, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Par exemple, les aimants, il a fallu les concevoir pour le LHC à cause de ses besoins d'énergie. Mais là où je voulais aussi insister, c'est que ça t'était intelligence, ça s'est un peu construite au fil de l'histoire, c'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, la physique des particules, ça se faisait sur une table comme cette table qui est devant nous. C'était des petites expériences, des petits détecteurs de particules, des petites champs à brouillard. L'électron a été découvert dans un tube à décharge qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'énergie, donc de machines de plus en plus puissantes. Et ainsi, ça a amené vraiment des défis au niveau de l'ingénierie assez importants. Et il faut ainsi insister sur le fait qu'il y a différents corps de métier au CERN. C'est pas seulement des physiciens, c'est aussi des ingénieurs, des techniciens. Et ça, on aime bien le rappeler au public, notamment pour le jeune public. Ça peut amener des vocations, notamment des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la physique en elle-même, mais par la technologie. Ça peut les amener justement à ce genre d'expérience.
Oui, parce qu'au CERN, effectivement, il y a beaucoup, il y a pas seulement, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des techniciens. Mmh. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux grandes expériences, il y a quatre expériences en tout au CERN pour aller détecter, mesurer l'infiniment petit et aussi rechercher, se questionner sur toutes les lois fondamentales de l'univers, parce que c'est ça qui est mis en question quand même. C'est d'aussi grandes questions que ça.
Oui, exactement, avoir une description la plus complète possible de l'univers que l'on observe. Donc c'est vraiment essayer de fouiner un peu dans ce microscopique pour essayer de comprendre un peu mieux comment la matière interagit avec elle-même, on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment, c'est très complexe, mais c'est une... Après, est-ce que c'est une compréhension, une description ? Là, il y a un peu le débat. Est-ce que la physique décrit ou comprend ?
Oui, est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on décrit, Nathalie Besson ? Déjà, décrire, c'est énorme, c'est considérable, parce que ça permet de se poser les bonnes questions, de se reposer les bonnes questions ?
Bah, en fait, oui. Alors, on commence par décrire avec une théorie. Enfin, on commence en parallèle. Hein. Tous les gens travaillent en parallèle. On commence par décrire quelque chose et puis on fait une expérience pour essayer de tester la description mathématique qu'on a faite de ce qu'on a, de notre modèle de la physique tel qu'on la conçoit. Donc, on fait une expérience et puis on regarde si le modèle donne des résultats mathématiques compatibles avec les mesures qu'on fait dans les expériences.
Bah, on continue à essayer de regarder ça dans 3 minutes, parce qu'il y a le flash d'info qui va nous interrompre, la Nathalie Besson, autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur de particules. Justement, on n'arrive même pas à le savoir. On le saura peut-être un peu plus dans 3 minutes. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur de particules dans l'infiniment petit sur les traces des briques les plus élémentaires de la matière. Avec nos invités, la chercheuse en physique des particules Nathalie Besson du CEA qui au sein de la collaboration Atlas du LHC continue de traquer les bosons et Julien Babel, médiateur scientifique au Palais de la Découverte à Paris qui présente une exposition étonnante et immersive au cœur même du grand collisionneur de particules, le LHC reconstitué pour le plus grand bonheur des visiteurs, immergés comme on le découvre au micro de notre reporter Alice Milo.
J'ai regardé autour de moi et tous les écrans des aimants étaient rouges. Les voyants indiquaient qu'il y avait des problèmes avec énormément d'aimants. Et la situation paraissait empirer rapidement.
Je comprends pas tout, pour être honnête, mais ce que je comprends suffit à me passionner. Et je trouve ça intéressant d'essayer d'ouvrir le capot de toutes les forces de l'univers, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour de vrai, tel qu'il est réellement et pas tel qu'on l'a fantasmé en étant enfant ou en étant... Et j'adore. Quelque chose qui fait 27 km, on a vu marquer qu'à un endroit du faisceau, c'était 11 000 fois par seconde que la particule elle passe. On s'approche de la vitesse de la lumière, c'est plus froid que l'espace. Et c'est de la science-fiction pour moi, et comme j'ai toujours été fascinée par la science-fiction, et ben, ça me plaît beaucoup.
C'est pas de la science-fiction, et bien la réalité de la recherche, quoique dans cette exposition, Julien Babel, les visiteurs sont carrément immergés, ils peuvent se prendre pour des particules, bon ça c'est de la science-fiction. Hein.
Oui, c'est vrai que l'exposition est conçue de manière à suivre un peu le trajet de la particule jusqu'à la collision et ça, ensuite la détection de ces petites filles. On appréhende assez bien cette machine et ça peut même être pris comme une visite de laboratoire finalement, cette exposition. C'est un peu comme si vous avez pris votre billet pour Genève et que vous allez visiter le CERN, sauf que là le CERN est à Paris et ça permet un peu de se rendre compte de toute cette machinerie utilisée pour la physique des particules.
Oui, cette gigantesque machinerie, on l'a dit, hein, pour étudier l'infiniment petit. Le but de l'expo, c'est quoi? C'est de faire passer, ce qui est quand même difficilement pensable, parce que c'est extrêmement compliqué quand on n'est pas physicien, les quarks, les bosons, Nathalie Besson, vous, j'allais vous appeler Nathalie Boson, ça va pas du tout, hein. Vous nous l'avez expliqué en première partie. Vous traquez les bosons, c'est lequel votre préféré, le Z? Le Z, d'accord. Mais enfin, c'est quand même très difficile à appréhender pour nous, ces briques élémentaires de la matière.
Oui, alors c'est pas une exposition non plus sur la physique des particules, c'est-à-dire que le visiteur va pas sortir de l'exposition et tout comprendre au boson de Higgs, à la physique des particules, et c'est pas le but non plus. En fait, le Palais de la Découverte a toujours dans son histoire, depuis 1937, montrer aux gens la physique en train de se faire, et là ça permet de le faire de manière assez intéressante, puisque c'est vraiment une machine qui est en fonctionnement en ce moment, qui est la machine la plus grosse jamais construite par l'humanité, qui fait intervenir des techniques très très élaborées, et de faire venir cette exposition au Palais de la Découverte, du coup ça a du sens, ça permet au public de un peu se rendre compte de ce qui est fait justement à Genève, à la frontière franco-suisse.
Et aussi de se rendre compte, Nathalie Besson, du quotidien des chercheurs comme vous, parce que vous travaillez sur les résultats, sur les données issues de ce LHC, de ce grand accélérateur de particules, et vous êtes très nombreux, on l'a dit, dans le monde entier, à travailler ensemble là-dessus, donc de près et de loin.
Alors exactement, déjà, par exemple, en ce moment, dans la collaboration CMS, il doit y avoir 2000 personnes qui travaillent, et puis c'est un petit peu plus grand, c'est 3000 dans la collaboration Atlas, donc ça fait de 5 à 6000 physiciens. Moi j'appelle physiciens, j'englobe tout le monde, hein, les techniciens, les ingénieurs, ceux qui font de l'analyse de données, ceux qui branchent des trucs... tout le monde.
Tous ceux qui mettent 5, quoi, leur intelligence, leur esprit, leur main.
Et le cerveau à la patte, c'est voilà, ça. Pour arriver à comprendre le monde des particules.
Et à reconstituer aussi parfois, parce que vous allez jusqu'à essayer quoi, de reconstituer le moment du Big Bang ou le moment juste après le Big Bang, on peut le dire comme ça, pour essayer de remonter justement aux particules les plus élémentaires et à leur interaction.
Ouais, c'est une très jolie phrase. Donc je pense qu'elle plaît aux gens de dire on reconstitue les conditions qui avaient lieu dans l'univers au moment du Big Bang. C'est vrai en un sens, c'est-à-dire que quelques temps après le Big Bang, il y avait suffisamment encore d'énergie dans l'univers pour que toutes les particules puissent exister. Et puis l'univers s'est refroidi en s'étendant. Et puis bah maintenant il faut rajouter de l'énergie à la main pour voir exister ces particules.
Enfin,
c'est
ce qu'on fait au LHC. Voilà, ouais, c'est ça.
Quand j'ai la main c'est un petit peu rapide.
Ouais.
Donc c'est exactement ce qu'on fait au LHC, c'est-à-dire on rajoute l'énergie à la main qu'il faut pour faire ressortir du vide toutes ces particules qui maintenant sont on va dire, comme dit Étienne très justement, Étienne Klein, endormi.
Ces particules sont endormies aujourd'hui, donc vous les réveillez.
Voilà, on les réveille.
Et vous regardez ce qui se passe quand on les réveille.
On les regarde, elles, parce que comme elles dorment depuis tout ce temps-là, on ne sait pas trop à quoi elles ressemblent. Alors, on a un modèle, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui contient tout ce qu'on croit qui est vrai à propos de ces particules endormies, et celles qui ne dorment pas. Hein. Je veux dire, protons, neutrons, électrons, heureusement qu'elles ne dorment pas. Elles
parce que sinon, on ne
serait,
hein,
pas là. Mais et puis, comme je le disais, on compare ce que nous dit notre modèle et les résultats de l'expérience. Et si le modèle, ce qui est le cas pour le modèle standard jusqu'à maintenant, il est absolument merveilleux, ce modèle. Dès qu'il prédit un truc, l'expérience est en accord avec lui.
Le fameux boson de Higgs qui a été découvert, qui a valu un prix Nobel à ses découvreurs, il était prédit. Donc ça, c'était entre guillemets normal, même si c'est impensable que vous ayez réussi à le traquer, à le trouver.
Il y a toujours des. Encore une fois, c'est un modèle. Donc, il existe toujours des théories alternatives qui pourraient très bien. Il y en avait qui disaient, ok, on pourrait très bien avoir un mécanisme du type de celui qu'on a mis dans le modèle pour expliquer deux trois trucs qui nous embêtaient, sans boson de Higgs. Il y avait des. Alors, c'est des modèles qui pour nous tenants, comme moi par exemple. Moi, je suis une farouche. Tenante du modèle standard, mais il y a des gens qui disaient non, pourquoi pas, c'est un peu exotique, mais pourquoi pas, on pourrait ne pas avoir le boson de Higgs. Donc on l'attendait, oui.
C'était quoi votre réaction à vous quand il a été découvert, réellement?
J'étais tellement fière de l'humanité, vous pouvez pas savoir.
Fière de l'humanité, oh, ça
non,
fait du bien en ce moment.
Plein en fait, parce qu'il faut bien voir que le modèle standard, Julien le rappelait, la physique moderne, elle date du début allez, on va dire 1905 avec Einstein, mais je suis vache parce que la découverte de l'électron c'est 1897 si je me trompe pas, donc ça fait quoi, ça fait 100 ans à la louche, quoi. C'est que dalle, mais quand même c'est beaucoup de gens qui s'y sont
ensemble.
Mis, qui avec enthousiasme, ensemble et intégrés dans le temps pour arriver à ce truc génial que dans les années 60 on prédit l'existence d'une particule. On ne sait pas quelle masse elle est, on ne sait pas quelle énergie il va falloir mettre pour la trouver. Et puis, en 2012, on annonce que, ouais, ça y est, on l'a vu. Par des collaborations, encore une fois, c'est 6000 physiciens, donc c'est...
Du monde entier, de toute origine, de toute langue, de toute culture,
et
on le rappelle.
Et j'étais là pour une... tellement fière des êtres humains, là, avec leur tout petit cerveau, de comprendre un truc qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qu'on a dû réveiller du fin fond de l'univers. Ouais, c'est beau, franchement.
Et ben pour rentrer justement dans cette beauté-là et dans l'intimité de tous ces chercheurs, mais aussi des particules, hein, protons, quarks et autres bosons que vous traquez, je propose d'en faire l'expérience de nouveau dans cette étonnante exposition au Palais de la Découverte à Paris, le grand collisionneur LHC, en compagnie de notre reporter Alice Milot, qui s'est donc immergée elle aussi avec les visiteurs, alors d'abord dans un film en 3D, qui les fait plonger à l'intérieur même du tube, où les protons sont lancés quasiment à la vitesse de la lumière, ambiance sensorielle accéléré.
Donc là, on est dans ce qui est censé représenter le LHC. Donc c'est très intéressant et assez immersif.
On est dans un cylindre en fait là.
Ouais. Et là, en fait, on est censé être à la place de la petite particule qui va rencontrer celle qui arrive en face.
Jusqu'à la fameuse collision recherchée. Et là, boum. Là, c'est un feu d'artifice, c'est des couleurs partout. Les appareils vont détecter toutes les particules nouvelles. On comprend assez facilement l'expérience. Et c'est aussi beau qu'effrayant, c'est vrai.
Ah oui, c'est impressionnant parce que c'est vraiment immense. Enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir y aller. Parce qu'on sait que quand il n'est pas en fonctionnement, on peut visiter et on peut descendre dans le cœur de... Ben j'aimerais bien, comme expérience. Puisque si on existe, hein, c'est bien parce que le boson de Higgs existe.
Et ça, l'infiniment petit, ça vous fascine?
Ah ben c'est nous. On est fait d'infiniment petit.
Vous regardez vos mains en disant ça?
Dans mes mains, parce que dans mes mains, il y a des atomes de... C'est toute notre histoire, l'histoire de l'humanité, de l'univers, oui.
D'où on vient finalement? Ça, c'est la grande question, je pense.
Et vous aimeriez savoir?
Ah oui, j'aimerais bien. Mais bon, je ne sais pas si je le saurai de mon vivant, on verra.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand accélérateur, le grand collisionneur de particules du LHC au cœur de cette exposition-là, il est reconstitué au Palais de la Découverte. Qu'est-ce qu'on verra de notre vivant? Qu'est-ce qu'on saura? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles questions engendrent les découvertes comme celle du boson? Quelles questions ouvertes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, Nathalie Besson?
Alors en fait, je sais pas s'il y a des Julien pourra me contredire ou pas. Moi, en tant que physicienne, je progresse. J'ai un peu conscience du temps que ça prend de répondre à une question. Par exemple, le boson de Higgs, l'échelle de temps, c'est postulé en 1964, observé pour la première fois en 2012. Je pense pas que les physiciens... Alors évidemment, ouais, si, allez. Des fois, il doit y avoir des frustrations. Je veux dire, construire le LHC, ça prend 30 ans. Enfin, le concevoir, puis le construire et le faire fonctionner, c'est 30 ans et plus. J'imagine que les gens qui ont dû partir à la retraite alors qu'ils ont bossé toute leur vie dessus sans voir les premières collisions, ça doit être très frustrant. Néanmoins, on réfléchit pas comme ça. Moi, je suis contente de progresser, d'apporter ma petite pierre minuscule à l'édifice de la compréhension. Donc je sais pas, on va peut-être découvrir des nouvelles choses. Donc je suis ravie qu'on ait découvert pendant que j'étais physicienne une nouvelle particule, mais j'ai même pas besoin de faire des paris là-dessus. Ce qui est important, c'est avancer.
Avancer
dans
ensemble,
la compréhension.
Dans la compréhension universelle, c'est ça aussi, Julien Babel. Vous avez l'impression qu'il vous anime et qui anime les physiciens en général.
Oui, c'est avancer dans la compréhension. Et puis, on se rend compte également que plus il y a de résultats, plus il y a de questions. Donc, en fait,
c'est un chemin
qui paraît infini. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas envie qu'il s'arrête. J'ai pas envie d'avoir la théorie ultime qui explique tout. Justement, la physique, c'est des questions, des réponses qui amènent d'autres questions, etc., etc. C'est ça qui est très intéressant et qui, j'espère, est infini.
Et est-ce qu'on pourrait avoir justement des surprises? Parce que c'est vrai qu'au moment de la découverte du boson de Higgs, on entendait effectivement, un peu comme vous, un certain physicien qui disait « Mais oh, je suis pas du tout déçu, je suis très très heureux qu'on ait trouvé ça, mais au fond, j'aurais bien aimé être complètement surpris et presque que justement le modèle de la physique standard soit remis à plat. » On a l'impression que les chercheurs sont des gens pas tout à fait comme les autres, qui attendent au fond que ce à quoi ils croient soit remis complètement en question.
Enfin, on aime autant avoir raison, ce qui prouve qu'on va dans la bonne direction, ou du moins dans une direction qui est pas trop fausse, que justement avoir tort, parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'on remette nos petits neurones en route et qu'on essaye de trouver pourquoi ça marche pas. En fait, un physicien, c'est un grand gosse qui répond à des questions du type pourquoi et comment ça marche. Donc effectivement, les gens qui étaient un peu déçus que ce modèle standard ait encore raison, c'est les gens qui se disaient bah ouais, mais moi j'aimerais bien un défi. Encore un défi encore plus compliqué. Alors ceci dit, des défis, il en reste plein. Hein.
Il en reste plein. C'est quoi les défis aujourd'hui?
Celui qu'on présente tout le temps parce qu'il est assez facile à comprendre, c'est celui de ce qu'on appelle la matière noire. En fait, maintenant, on a des gros instruments pour regarder l'univers, donc on peut observer les galaxies, en particulier la manière dont elles tournent sur elles-mêmes, hein, leur courbe de rotation. Et il se trouve que ça n'est pas compatible avec la quantité de matière qu'on voit. Donc, on en a déduit qu'elles étaient aussi constituées d'une matière qu'on ne voyait pas, donc qu'on appelle noire, et qui, là, pourrait justifier, avec les théories qu'on connaît de la gravitation, leur courbe de rotation.
Et là aussi, enfin, l'astrophysique rejoint la physique des particules, c'est-à-dire qu'au fond, c'est même combat dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit.
Bah exactement, parce que ce qu'on observe dans l'infiniment grand, au bout du bout, c'est constitué par l'infiniment petit. Alors là où c'est intéressant pour la matière noire, c'est que pour l'instant, toutes les observations en astrophysique ou en physique des particules, on n'a pas de particules sous le coude qui puissent expliquer cette matière noire.
Là, pour le coup, il n'y a pas de prédiction de...
Ah si, alors il y a plein de modèles qui existent, qui prédisent des choses, ça c'est sûr. Et maintenant, il faut les tester. Mais le truc, c'est que dans celles qu'on a déjà observées, X compris, là je pense qu'il y a 2-3 théoriciens qui me tomberaient dessus, mais la plupart pensent que le X ne sert pas dans ce domaine-là non plus. Toutes les particules observées, toutes celles du modèle standard, il n'y en a pas une qui soit capable... je vais faire une petite rectification parce que ça c'est du jargon, il y en a plein, hein. Mais elles sont toutes pareilles, donc on parle toujours de une, elles sont indiscernables. Et donc, dans toutes celles qu'on connaît, il n'y a rien qui explique la matière noire. Donc, il y a forcément un bidule qu'on ne connaît pas quelque part. Ça, c'est excitant.
Ça, c'est excitant. Et est-ce que le LHC, enfin un accélérateur de particules, pourrait nous aider à le découvrir, ce bidule qu'on connaît pas quelque part?
Ah bah oui, le LHC par exemple. Alors, c'est pas dit, hein, parce qu'on connaît pas les caractéristiques du bidule. Mais le LHC, là, va redémarrer bientôt, à plus haute énergie.
Oui, là, il va redémarrer à plus haute énergie.
Voilà, ouais. Avec presque 2 fois plus d'énergie disponible dans les collisions. Ça veut dire qu'on va avoir accès à des particules de masse plus haute que celles qu'on pouvait... produire jusqu'à maintenant. Et donc, peut-être, si elles existent, des particules de modèles alternatifs. Il y en a une que j'aime bien parce que ça lui fait un petit nom rigolo. On l'appelle Suzy. En fait, c'est pour supersymétrie, mais ça lui donne un petit nom joli.
Ah ouais, parce que supersymétrie, c'est joli aussi, mais c'est un peu compliqué. Mais Suzy, ça marche.
Suzy, voilà. Et qui prédisent donc de nouvelles particules qu'on pourrait observer. Mais là, je fais pas de pari parce que comme on connaît pas leur masse, c'est pas dit qu'au LHC, on y arrive.
Mais en fait, vous avez de la lumière dans les yeux quand vous dites ça, même quand vous dites c'est pas dit qu'on y arrive. Enfin, c'est-à-dire que ça fait partie de la démarche.
Le jeu, c'est de chercher, oui, bien sûr.
Le jeu, c'est de chercher, vous êtes d'accord, Virabelle?
Oui, je suis d'accord. Ce qui est intéressant également, c'est que, au début, la physique des particules, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait une question d'inattendue dans un détecteur et la théorie arrivait ensuite. Alors que maintenant, c'est la théorie qui l'avance sur la découverte, donc, enfin, sur l'expérience. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, l'inattendu est peut-être plus forcément là.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur, Particules de rêve sur RFI avec Kaolin. Particules de rêve autour de la question jusqu'où nous entraînera le grand collisionneur de particules, le LHC du rêve à la réalité que l'on peut peut-être imaginer. Je propose un dernier éclairage en forme de question, c'est celle que vous pose le physicien Gabriel Chardin.
Pour moi, la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'au-delà et quel est le futur de... On a atteint une certaine taille de gigantisme qui est une des plus belles installations au monde, 27 kilomètres de circonférence. Il y avait un projet aux États-Unis qui était encore plus grand. Il y a un projet en Chine qui est encore plus grand aussi. Sera-t-il construit ou pas? C'est pas évident. Jusqu'où faut-il aller, par exemple, dans ce type de construction? Quel est l'équilibre à respecter? Si on voulait aller à la grande unification, c'est-à-dire qui voit la désintégration de la matière, il faudrait des accélérateurs de la taille du système solaire. Quand on se trouve confronté à ce genre de défis, comment fait-on pour contourner le problème? Parce qu'on a déjà atteint un certain gigantisme.
Peut-on construire des instruments toujours plus grands? Plus grand que ce grand accélérateur de particules, Julien Rebel.
Alors oui, Nathalie, je pense que tu seras d'accord, mais je crois qu'il y a un projet de 100 km de circonférence, si je ne me trompe pas.
100 km de circonférence. Ouais.
Mais après, on peut aussi penser à de nouvelles techniques d'accélération, ce qui n'est pas exclu. Là, je crois que l'anneau plus grand que le LHC, qui ferait peut-être dans le futur, il utilise à peu près le même type d'accélération que le LHC aujourd'hui, mais peut-être on peut trouver d'autres techniques pour accélérer les particules sur des plus petites distances. Et du coup, ça me permet de faire la publicité pour une conférence qui sera au Palais de la Découverte le samedi 13 juin, où il y aura Michel Spiro et un monsieur qui s'appelle Gérard Mourou, qui étudie d'autres techniques d'accélération des particules, avec notamment des lasers haute fréquence, et qui permettent d'avoir de l'énergie du LHC sur un mètre.
Ah oui, donc, là ça change tout. Effectivement, là, on n'est plus dans le gigantisme, on est dans la précision du laser. Enfin,
donc c'est encore de la recherche, mais... Il peut y avoir d'autres techniques aussi pour accélérer les particules sur de plus petites distances.
Nathalie Besson, à votre avis, il y a des limites à ce gigantisme quand même. On est obligé, aujourd'hui, pour le moment, tant qu'il n'y a pas ces techniques, notamment au laser, pour accélérer les particules, d'avoir des instruments absolument gigantesques.
Alors, ce serait horrible si les physiciens se posaient des limites. Donc, nous, on n'en a pas.
Alors, évidemment, après, à notre imagination,
oui. À notre envie de chercher, à notre envie de faire toujours mieux, non, des limites, il n'y en a pas. Après, il y a toujours le problème de l'argent, in fine, c'est trivial, mais c'est vrai, c'est des instruments qui coûtent très cher.
Il y a des gens, d'ailleurs, qui disent que ça coûte très cher, trop cher.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, trop cher? Moi, je pense que pour être plus intelligente, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc je ne pense pas que trop cher, ça... Pour moi, évidemment.
C'est là qu'il faut qu'on mette nos billes, hein. C'est
voilà,
ce que vous dites, hein.
Bah, pas que là, évidemment. Il faut. Je vais revenir un petit moment sur le CERN parce que Julien a parlé d'autres techniques d'accélération. Le CERN, c'est pas que je construis un instrument et puis que je l'exploite. Évidemment, en attendant, les chercheurs du CERN et de tous les pays qui y collaborent continuent à travailler sur le futur. Tout ça, ça se chevauche quand on voit les constantes de temps, c'est-à-dire 30 ans pour mettre au point un accélérateur. Donc, il y a aussi des techniques alternatives qui sont étudiées aussi au CERN. Un truc qui s'appelle CLIC. C'est mignon. Mais
oui, donc il y a d'autres pistes que celle d'aller toujours plus dans
d'autres
dans du
pistes.
Gigantisme.
Et puis si on parle de comment on doit investir l'argent des gens, le CERN a ces données. Bon, déjà le CERN a été construit, vous l'avez dit, en 54, c'est vraiment sur les cendres de l'Europe. Il a été construit pour la paix, pour la recherche, pour la paix. Donc et ça devait être un projet collaboratif et ça l'est, on l'a déjà dit, il y a un pays sur deux qui collabore avec et dans le CERN, mais il a des missions bien précises qui sont progresser en science, dans la compréhension de la science. Alors au début c'était la recherche nucléaire, parce qu'on en était au noyau, maintenant on en est aux particules, il a gardé son acronyme de CERN, mais maintenant on est encore plus petit que le noyau des atomes. Et puis donc ça, développer la technique, la technologie et la mettre à la disposition des chercheurs pour aller dans ce sens.
Oui, elle est complètement en libre accès, libre cerveau, c'est-à-dire que tous les chercheurs, je rappelle aussi que c'est au CERN qu'on a inventé le web, c'est-à-dire que c'est vraiment à disposition de tout ce que vous trouver, et c'est à celui qui aura la plus grande imagination, la plus grande intelligence ou la plus grande idée, ou la plus grande imagination, la meilleure, qui pourra le développer, mais ensemble.
Absolument, et ça c'est dans la charte du CERN, c'est-à-dire ça ne doit pas être mercantile, et la dernière mission du CERN qui est extraordinairement importante, c'est l'éducation par la science. Et donc le CERN, j'ai vérifié les chiffres, je trouve ça admirable, il y a plus de 40%, sans compter les étudiants, des chercheurs qui collaborent au CERN qui ont moins de 35 ans. C'est une population très jeune. Et j'ai même pas mis les étudiants dedans. Donc, c'est une population extrêmement jeune. Il y a un nombre d'étudiants incroyables qui y passent. Et l'éducation peut se faire aussi, évidemment, par la science.
Et rappelons-le, donc, de toute nationalité, toute culture, vous communiquez ensemble, vous partagez vos résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette recherche vraiment à la pointe pour essayer de comprendre en physique quantique l'infiniment petit, ça rejoint l'infiniment grand. Enfin, cette recherche extraordinaire, c'est aussi quoi? Une sorte de, presque de modèle qu'on aurait envie en ces temps aussi sombres de diffuser, de partager. On a envie d'aller dans ce sens-là aussi.
Bah bien sûr, et je crois que c'est un modèle qui peut être proposé peut-être pour d'autres recherches ou d'autres systèmes. J'ai eu la surprise une fois au CERN de tomber sur une anthropologue qui voulait m'interviewer ou me poser des questions parce que elle trouvait ce CERN tellement extraordinaire
sur
ce
cette
milieu,
population de
sur
chercheurs.
La population, la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle est hiérarchisée ou pas. Et c'était rigolo parce qu'on est vraiment scruté comme un objet d'étude. Le CERN.
C'est étonnant parce que vous êtes des physiciens, des particules, avec des techniciens, on l'a dit, avec des ingénieurs. Vous posez des questions quasiment existentielles, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, d'où on vient, de quoi est fait la matière qui nous constitue, celle qui constitue l'univers. Et vous avez des manières très collaboratives de travailler ensemble. Ça rend philosophe d'être physicien, Julien Babel?
C'est
philosophe au bon sens du terme.
Ça rend philosophe, ouais, et puis ça permet de relativiser aussi les choses, d'étudier un peu la matière, de se rendre compte que finalement, on n'est pas grand-chose, que l'univers est grand, qu'il y a beaucoup de choses encore à comprendre. Ça permet de relativiser la place de l'humain un peu dans tout ça. Et c'est, je trouve ça intéressant, ouais, à ce niveau-là, ouais.
C'est ce que vous essayez aussi de faire passer peut-être aux visiteurs au Palais des Découvertes?
Un petit peu, ouais. Mais ils le comprennent bien, ils le comprennent très très bien. Et puis les gens qui viennent au Palais des Découvertes sont déjà intéressés par le sujet à l'origine. Ils ont beaucoup de questions. Bon, on fait des exposés d'une heure à peu près. En général, ils durent 2h30 puisqu'il y a des centaines de questions qui fusent.
Au fond, on a l'impression de ça aussi. On a l'impression que ça ne fait qu'ouvrir des questions. Vous dites vous-même, c'est pas une question de temps. Vous n'allez pas apporter des réponses. Vous allez ouvrir de nouvelles questions. Ce serait peut-être ça votre but finalement à tous. Nathalie Besson, pour terminer.
Bah, je sais pas si c'est notre but, mais c'est comme ça que ça se passe et c'est bien. Enfin, répondre à des questions pour en voir d'autres s'ouvrir, c'est plutôt ça.
Bah ça, on est d'accord avec vous. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct nous faire partager donc toutes ces questions, vos découvertes aussi, vos expériences, vos interrogations. Je rappelle à nos amis auditeurs qui sont à Paris que l'exposition Le Grand Collisionneur LHC c'est à vivre à Paris au Palais de la Découverte jusqu'au 19 juillet en immersion bien sûr et vous êtes tous les bienvenus petits ou grands. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro pour continuer le voyage dans le temps, tiens donc, et dans l'espace, en interrogeant les grandes figures féminines de l'astronomie. Joli programme. Quant à nous, Charles Pélabon, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations, bien sûr. Cette fois-ci, ce sera sur notre cerveau et sur les états limites de conscience. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez conscients, gardez l'esprit grand ouvert. Merci de votre curiosité et de votre interactivité. Dans quelques instants, dans une poignée de secondes, c'est l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.